Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blau au micro et Nicolas Fadman à la technique. Oui, bon, aujourd'hui, je suis arrivé, pas de pluie, un peu de soleil qui montre un peu le bout de son nez. En première partie d'émission, comme presque tous les mardis, c'est pas tous les mardis, voilà, là, j'ai concocté quelques sujets pour vous. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Anne-Elisabeth Lapointe, directrice générale de la maison Jean Lapointe. Oui, ça va parler de quoi ? De beaucoup de choses. Si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. Jusqu'à 19h30, elle sera là pour nous parler un peu le fonctionnement de la maison Jean Lapointe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quels sont ceux qui sont pris en compte? Et puis, qui peut s'adresser à cette maison? Et puis, voilà, c'est parti tout de suite. J'espère que vous allez bien. Un début de semaine comme ça. On va en musique avec Yandri et la complicité de Luz and the Yakuza Mascarade.
Decido a dónde voy. Impedimento aquí no hay. Si poussagerai devant la night. Ne m'appelez pas si je rentre tard. Premièrement, yeah. First of all.
Yo sé bien ya que tú sabes. Te lo leo en la cara. Deuxièmement, yeah.
Segundo.
Cómo duele cuando me miras. Sin saber tú me tiras.
Tercero.
Troisièmement.
Leurs cas sont trop insistants pour se noyer dedans. Cuarto, yeah. On finit par perdre patience, la rage devient notre essence.
Antes de hablar, me quitate la mascara.
Arrêtez un peu avec toute cette mascara.
Antes de hablar, me quitate la mascara.
Arrêtez un peu avec toute cette mascara.
Yo decido a dónde voy.
Je ride alone la night. Ne m'appelez pas si je rentre tard.
Yo soy la mulata, no me interesa nada de tu plata. Vivo a lo loco, amo le de gracia. Porque me crio lejos de tu juicio. Vivo a lo loco.
Finir martyr pour ne plus jamais devoir fuir. Quand t'aimes on est solo. M'appeler ami, m'appeler famille. Mais quand t'aimes je suis solo.
Antes de hablar, me quitate la máscara.
Arrêtez un peu avec toute cette mascara.
Antes de hablar, me quitate la máscara.
Arrêtez un peu avec toute cette mascara.
Yo decido a dónde voy. Impedimento aquí no hay.
C'est pour ça je ride alone la night. Ne m'appelez pas si je rentre tard. Ta-da-da-da-da-da-da. J'étais compte à rendre à personne. J'pense que la vie me tanne. Yandri et Lou sur l'inter. Fin de jamais on abandonne.
Aquí va la luz. Yo vivo lo loco.
Antes de hablarme, quítate la máscara.
This one was good. Voilà, là, on vient d'écouter. Yandri, Luz et les Yakuza. Voilà, mascarade. Et comme je disais en début d'émission, au moment où je plantais le décor, j'ai parlé de quelques sujets que je vous ai choisis avant d'avoir mon invité en deuxième partie d'émission. Je veux parler d'une soignante kényane, Anna Kabale-Duba, qui a reçu le prix de la meilleure infirmière du monde. Je ne sais pas comment ça se passe ce concours-là. Voilà, effectivement, la meilleure infirmière du monde, oui. C'est une fondation médicale indienne d'ailleurs qui organise pour la deuxième année consécutive cette remise de prix. Il y a eu 24 000 participants à travers le monde qui se sont présentés, infirmiers qui se sont présentés. 9 ont atteint la finale. Donc le 12 mai, c'est finalement Anna Kabale-Duba qui a été désignée par le jury pour son travail en matière d'éducation sexuelle et de lutte contre l'excision. Elle vient de recevoir, voilà, ce qu'on pourrait traduire par le prix international du soin, c'est le Global Nursing Award, autrement dit celui de l'infirmière la plus méritante, remis par la Fondation médicale indienne Aster DM. Anna, et âgée de 31 ans d'ailleurs, en plus de sa vocation d'infirmière, elle est récompensée pour son travail d'éducation sexuelle auprès d'adolescentes et de leurs parents aussi, et pour son parcours de battante. Elle a même construit une école dans son village. C'est la première universitaire de son village. Voilà, elle est née à Torbi. Elle a grandi là-bas. C'est le petit village reculé dans le nord du Kenya. Voilà, d'une famille nombreuse. Elle a failli être mariée à 14 ans. Donc, et elle a pu s'échapper. Voilà. Et puis à 16 ans, elle a décidé de devenir infirmière. Elle s'est lancée dans les études Kenya Methodist University, où elle est devenue la première femme diplômée de son village. Merci. Bravo à elle. Donc, l'hôpital qu'il a embauché là-bas lui a permis de réaliser que toutes les patientes ont subi la même chose qu'elle. Beaucoup de mutilations génitales suivies d'un mariage forcé. Donc, ça l'a beaucoup marqué d'ailleurs dans son jeune âge. Elle a fait son chemin des cours sur le corps humain et pour les adolescentes et leurs parents. Elle a décidé de retourner dans son village et d'y ouvrir une école où elle dispense des cours pour les filles le matin et pour les parents le soir, l'après-midi. Voilà. Donc les mêmes cours qui vont de l'apprentissage de la lecture à la connaissance du corps humain. Elle explique tout, hein, aux mères, aux pères, la reproduction, les cycles menstruels, la transmission des maladies et le consentement aussi. Alors, c'est tout ça qui a fait, c'est pas simplement le fait qu'elle est simplement infirmière qu'elle a eu ce prix là, voilà. Sinon, et puis elle a dit, elle se bat pour prévenir plutôt que de guérir. Elle a créé son association pour inspirer d'autres villages et c'est ce qui lui vaut cette récompense, accompagnée d'un prix de 250 000 $ pour financer son école. Voilà. Je pense bien que si d'autres finalistes avaient ces genres de projets à côté de leur métier d'infirmière, peut-être, mais on lui dit bravo. Il y avait des Afghans, des soignants afghans, des Indiens, des Australiens, des Britanniques, des Émirs. Bon, combien en tout au total? Il y a 24 000 participants. C'est beaucoup, hein? 9 qui ont été retenus, finalistes. Il faut le faire. J'ai vu les images, les vidéos. Alors, ah, je me suis dit, mais les finalistes ont aussi reçu quelque chose, un prix de 5 000 $ pour mettre en lumière, explique la fondation Aster, ce métier trop souvent sous-valorisé. Ça, je suis d'accord. La fondation estime que 27 millions de femmes et d'hommes sont infirmières et infirmiers dans le monde, ce qui représente plus de la moitié des travailleurs de la santé. Ah oui, pour une paie qui ne s'élève en moyenne qu'à un dixième de celle des médecins. On dit bravo à ces femmes et à ces hommes, les infirmiers, oui, les infirmiers, les infirmières et les infirmiers, on leur dit bravo pour tout ce qu'elles font pour nous depuis, même avant la pandémie, tout ce qu'elles font pour nous, pour les patients, pour nos parents, pour nos proches. Qu'on soit malade ou pas, on connaît quelqu'un qui a été déjà reçu par un infirmier ou une infirmière, ça il faut le dire. Alors, on dit bravo à cette jeune dame, j'espère qu'elle va se servir de cette somme d'argent de 150 000 $ pour financer, pour agrandir son école et pour que les gens continuent d'y aller d'ailleurs, les enfants, les adolescentes, les adolescents, les parents, pour apprendre les cours, pour suivre les cours qu'elle donne là-bas avec les différents profs qu'elle a pu engager. Voilà, les parents sont obligés d'y aller, hein. Je dis pas non, j'ai pas le temps, je vais pas. Non, ils sont obligés. Ils sont obligés parce qu'ils se disent souvent. L'éducation vient de là aussi. Si à la maison, on ne peut pas en parler, venez à l'école ici, on va en parler pour découvrir le corps humain. Là, au moins, les traditions, tout ça, on met ça de côté. On va aller en musique. Oui, une deuxième pièce musicale avec Berita Tandulveto. Oui, avant de passer à un autre sujet, on parlait de la mer du Nord, le Danemark qui cherche une alternative pour réchauffer ses hivers froids. Pas seulement le Danemark, tous les pays d'Europe. Ouais, l'Union européenne, bien sûr. Mais le Danemark est derrière ce gros projet-là. Allez, à tout de suite.
Dans le nom fana, oh mon cher. Comme un laquais
Oui, Berita, Tandlovetu. Voilà, comme je disais avant la pièce musicale, la mer du nom, à la mer du nom, il y a le Danemark qui cherche une alternative pour réchauffer ses hivers froids. Le Danemark a été le premier pays d'ailleurs au monde à construire un parc, éolien offshore en 1991. Oui, avant l'an 2000. Ça date pas d'hier, hein. De toute façon, les Scandinaves, ils sont toujours en avance. Qui est plus rapide, qui est plus avant-gardiste que ces Scandinaves-là? Les Suédois, les Finlandais, les Norvégiens, les Danois. Voilà, Danemark. Voilà. Donc, il s'agit de méga-constructions composées de réseaux d'éoliennes qui vont être placées sur une sorte d'île artificielle et qui, d'ailleurs, sont les plans, selon les plans, vont permettre au Danemark de produire beaucoup plus d'énergie que les autres parcs éoliens dans le monde. C'est fou, hein? Ouais. Donc, il faut le reconnaître, les pays scandinaves, c'est l'Europe du Nord, ça. Donc, ce pays d'Europe du Nord veut aussi mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. Oui, le gaz russe, le fameux gaz russe qui cloue le bec à tous les Européens, qui sont tous dépendants de ce gaz russe. Donc, ce projet est considéré comme le plus grand projet de construction de l'histoire du Danemark, avec un coût estimé à 34 milliards de dollars. C'est costaud, oui, ça vaut le coup, parce qu'ils seront plus dépendants du gaz russe. Pas seulement le Danemark, mais tous les pays de l'Union européenne vont en profiter. C'est ça, oui, d'ici peu. Donc, il devait être achevé d'ici 2030. Ça va vite, hein, on est en 2022. Ça va vite, mais d'ici là, vous retrouvez d'autres solutions. Mais après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement danois a annoncé qu'il cherchait à accélérer son achèvement en tant qu'alternative européenne au pétrole et au gaz russe. Et alors, ils ne vont pas aller chercher loin de toutes les façons. Quand ça avait commencé, moi, j'avais toujours dit, ils vont trouver une solution. Ils n'ont pas besoin de tout le temps dépendre du pétrole et du gaz russe. Donc, le Danemark et l'Europe doivent se libérer de ces combustibles fossiles russes les plus rapidement possible, a déclaré Dan Joel Jensen, c'est le ministre du Climat, de l'Énergie et des Services Publics. Et dans un dernier communiqué d'ailleurs, il a déclaré que les îles énergétiques sont un moyen écologique d'empêcher que la guerre de Poutine soit financée par l'argent européen, car il estime que la mer du Nord a un potentiel d'énergie éolienne suffisant pour couvrir les besoins en énergie de millions de ménages européens. Voilà, c'est ça. C'est pas seulement pour le Danemark, c'est pour toute l'Europe. C'est tous les Européens qui vont en bénéficier. Ça veut dire que les 34 milliards de dollars, c'est pas seulement les Danois qui vont payer, les autres pays européens qui dépendaient de la Russie, en particulier l'Allemagne, qui recevait plus de 55% ou bien 56% de son gaz de la Russie, va aussi mettre les mains à la patte, quoi. Ouais, ça c'est clair. Et puis, ce monsieur, ce ministre danois, l'énergie, il a déclaré que les îles énergétiques sont moins écologiques d'empêcher la guerre de Poutine. Voilà. Il dit aussi que c'est important, cet important potentiel éolien en mer doit être exploité et le gouvernement danois commence donc à préparer la création d'îles énergétiques supplémentaires en plus de celles déjà prévues. C'est fou, hein? Il fallait le faire. Donc, s'il n'y avait pas eu cette histoire de cette guerre, hein, cette invasion d'Ukraine par la Russie, ces projets n'allaient pas naître si les Danois étaient déjà sur le projet en éolien offshore en 1991, comme je le disais en début de cette animation. Voilà. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Énergie propre. Donc, selon les données officielles, près de 49% de la production totale d'énergie du Danemark provient des sources d'énergie éolienne. 49%, c'est beaucoup. Voilà, après ils vont dire aux Russes, je ne sais pas vers qui la Russie va se tourner, ça ne nous regarde pas. L'essentiel, c'est que tous ces pays arrivent à se libérer de ce pays envahisseur, parallèlement à d'autres qui vendent, qui ne vont pas envahir d'autres pays aussi. Voilà. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'environ 16% de la production du pays dépend actuellement de la Russie. En 2016, c'était 34%. Voilà, donc ça diminue au fur et à mesure qu'on avance, quoi. Le Danemark fait l'exploitation, depuis longtemps d'ailleurs, des vents forts du large pour produire de l'électricité. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? En vertu de la loi sur le climat adoptée par le Congrès en 2019, Copenhague s'est engagé à réduire de 70% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à être neutre en carbone d'ici 2050. Oui, le gouvernement en décembre dernier d'ailleurs avait annoncé qu'il mettrait fin à toute nouvelle exploitation pétrolière et gazière en mer du Nord. Mais les nouvelles îles de la mer du Nord, plus de 400 îles, naturelles, font partie du Danemark, 400, y compris le Groenland. Mais le pays veut maintenant en ajouter d'autres artificiels à des fins énergétiques. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, non? On fait avec, et puis les immenses ressources éoliennes de la mer du Nord et de la mer Baltique, il faut les exploiter pour que l'Europe soit indépendante de ce qui vient de l'autre côté là-bas, de la Russie, de, je sais pas, de Moscou, bien de Saint-Pétersbourg, bien je ne sais où. C'est pour ça qu'on fait la guerre actuellement en Ukraine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je pourrais ajouter sur ça encore avant de passer à la prochaine pièce musicale? Voilà, les nouvelles îles de la mer du Nord, plus de 400. À l'époque, l'Agence danoise de l'énergie avait déclaré que ces centrales seraient les premières du genre du monde et qu'elles visaient à exploiter les immenses ressources éoliennes de la mer du Nord et de la mer Baltique. Ça, c'est intéressant. Selon M. Ostergaard, l'idée des îles énergétiques est un concept révolutionnaire. Voilà, ça c'est nouveau ça. Voilà. Révolution, il s'agit de la prochaine grande étape pour l'industrie danoise des éoliennes. Nous avons ouvert la voie à l'onshore, puis nous avons franchi le pas de l'offshore. Et maintenant, nous franchissons le pas des îles énergétiques. Ça, c'est génial. C'est beau comme projet, ce qui permettra à l'industrie danoise de conserver sa position de pionnière, et dit-il. Voilà. Allez, je pense que de temps en temps, je vais revenir sur ça, parce qu'il y aura des actualités là-dessus. Ça va continuer pour qu'un jour au moins l'Europe arrive à se prendre en main parce que tous les pays européens ne sont pas nantis de ces possibilités comme les pays scandinaves et puis d'autres pays qui produisent du gaz et du pétrole. Ils sont obligés de, d'aller chercher du gaz et du pétrole du côté de la Russie, dont ils dépendent depuis des décennies, depuis la chute du mur de Berlin, ou bien même avant. C'était eux qui desservaient presque tout. Même les Italiens, ils reçoivent du gaz de la Russie. La France, l'Allemagne, maintenant, ils sont tombés à combien là? Je ne sais pas, l'Allemagne est tombée à 35%, si je ne me trompe pas. Il va falloir voir les mises à jour qui ont été faites. Sinon, effectivement, comme ils le disent, l'Union européenne va devenir indépendante des combustibles fossiles russes aussi vite que possible. Et la meilleure façon d'avancer est que les pays européens travaillent ensemble pour augmenter et accélérer la construction d'énergie renouvelable en mer du Nord, a déclaré le ministre danois de l'Énergie. Voilà, un potentiel inexploité. Voilà, ça c'est comme ça. Je vais revenir comme ça de temps en temps avec des mises à jour pour essayer de vous informer. Je m'informe aussi en même temps. On termine en beauté avec une pièce musicale avant d'arriver à la petite pause publicitaire. Yeah. Neyo, don't love me.
And I really wanna see you happy. I really wanna see you secure. Confident in your side street. I know you don't feel that with me. Selfish of me to ask you to stay when I know that I cannot love you the way you deserve. I can't sit and watch you make these same mistakes, ones I know that you're willing to make. Please don't, please don't love me. Walk away, you'll be better for me. I can't be your happy. Walk away, you'll be better. To your face, done got too easy for me tonight. Even though I love you a lot, hey, all I'ma wind up doing is making you hate me. I broke your self-esteem and made you feel crazy, so walk away.
I think we might need to press the brakes on this for a second. I mean, this ain't right. You're not happy. I can see that in your face. There's no point in us being unhappy together. We didn't start out like this. I mean, I don't know how I got here, but it doesn't make any sense for me to hold on to this for a selfish reason. I can't be what you need me to be right now. As much as it pains me to say that, I mean, girl, I love you, but I love you enough to let you walk away.
I'm the reason that the tears run down your face. I'm the reason that you felt so out of place as of late. And to stay with me, it would be a mistake. When I know that you're willing to make. Please don't.
Demander ce qui me peine, ce qui me peine. mais je ne peux pas. Un seul à tout contre toi, comme il se doit, comme il se doit. Je mets pas pis pour toi, quand l'amour m'a eu. Fais ce que tu voudras, mais qui paiera ce lourd tribut? Toujours l'image, oh de ma beauté. Je n'ai que l'avantage de m'en déchirer. Ce qui me peine, c'est que je t'aime. Mais je ne peux pas me serrer tout contre toi. Ce qui me peine, c'est que je t'aime. Mais je ne peux pas. C'est tout contre toi, comme il se doit, comme il se doit.
Ouais, c'était Stéphane Aicher. Restez à l'écoute, vous entendez le jingle de l'émission. Restez à l'écoute, après la petite publicité, la première pièce musicale, je vais recevoir... Anne-Elisabeth Lapointe, qui est guérite générale de la maison Jean Lapointe, qui va venir nous parler, qui va nous parler de ce qui se passe là-bas au sein de la maison Jean Lapointe, qui souhaite rappeler l'importance d'ouvrir le dialogue sur la corrélation entre la santé mentale et l'usage des substances, l'alcool, tout. Allez, à tout de suite, pour en savoir plus avec l'invité. À tout à l'heure.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Lorsque j'étais enfant, je me croyais au ciel. Quand la radio d'antan tournait du gospel, j'arrêtais de jouer pour aller écouter les voix des chanteurs noirs qui me faisaient rêver. Les Noirs venaient crier leur espérance. Papa m'avait dit pourquoi, maman m'avait dit comment. Les Noirs se réunissaient pour prier en chantant. Lay down on my long white robe, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, I'll lay down. My long white robe down by the riverside, studying that war no more. But old Joshua, he was a man of the war, a battle axe and a devil at soul. He fought the battle around Jericho many long years ago. But old Joshua, he was a man of the war, a battle axe and a devil at soul. He fought the battle around Jericho many long years ago. Je ne savais pas pourquoi toutes ces chansons-là me remplissaient de joie, parlaient si fort en moi. Je sentais sous les mots et sous les harmonies tout le poids sur leur dos qu'avait posé la vie. Papa m'avait dit pourquoi, maman m'avait dit comment.
des noirs criaient au monde leur souffrance. Papa m'avait dit papa, maman m'avait dit comme moi, on peut lorsque ça va pas chanter un alléluia.
Swing.
Gospel, c'est le titre de la pièce. Voilà, j'ai sa fille au téléphone qui va nous parler de la maison Jean Lapointe. Voilà, c'est pourquoi je l'ai invité. C'est les 40 ans. Hein. Et puis d'ailleurs, il va falloir qu'on l'invite de temps en temps comme ça parce que le projet est tellement vaste là-bas, la maison Jean Lapointe. Elle est la directrice générale de la maison Jean Lapointe, Anne-Elisabeth Lapointe, qui travaille là depuis plus d'une vingtaine d'années. Ouais, elle va nous dire pourquoi elle a accepté de prendre la tête de la maison de papa. Bonjour Anne-Elisabeth Lapointe.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais bien, merci.
Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de la maison. La maison, là oui, c'est la maison Jean Lapointe. C'est lui qu'on vient d'écouter là. Comment il va, papa?
Oui, il va bien. Il y a eu des soucis de santé, mais il va vraiment, vraiment mieux aujourd'hui. J'étais vraiment heureuse d'écouter cette chanson. Ça fait des années que je ne l'avais pas entendue.
Ah bon?
Merci, merci.
Avec plaisir. J'ai dit non, je ne peux pas recevoir sa fille et puis ne pas jouer des pièces de lui quand même, sans déconner. Alors, cette année, c'est les 40 ans de la maison. Comment ça se fête? Comment ça se fête?
On a plusieurs activités prévues tout au long de l'année pour évidemment rendre hommage à mon père, également pour rejoindre nos anciens résidents et résidentes qui sont passés dans nos murs au fil des 40 ans. Il faut comprendre, c'est près de 40 000 personnes qui ont été aidées depuis la création de la maison Jean Lapointe et de la fondation Jean Lapointe également.
Oui.
On a aussi beaucoup de bénévoles qui sont nos anciens résidents, donc on va fêter évidemment avec eux.
Oui.
Et on va également faire quelques surprises à mon père qu'on réserve pour l'automne.
Oui.
Et 40 ans pour nous, c'est un retour en arrière, regardez l'histoire, tout ce qu'on a pu mettre sur pied, nos belles réalisations, mais c'est aussi un moment pour aussi regarder vers le futur et voir qu'est-ce que la maison a envie de faire pour les prochains 40 ans.
Oui. Je pense que la maison est là pour l'éternité, tant qu'il y aura des humains sur cette terre qui seront dans cette situation-là. Parce que c'est pas le but de... Est-ce que on ne pense pas que ça va supprimer complètement les gens qui sont dépendants de ces... de l'alcool ou bien des substances, on va aller un peu en détail un peu plus tard. Mais il y a une de vos citations que j'aime beaucoup. À la maison Jean Lapointe, nous sommes aux premières lignes pour constater que les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance souffrent souvent de troubles de santé mentale. Il est donc primordial que le traitement et la prévention de ces problématiques soient adressés conjointement. C'est vous qui le dites, oui.
Oui, absolument. Mm-hmm. Écoutez, c'est notre constat depuis qu'on fait le traitement et la prévention. Donc, le constat est le même, autant chez nos jeunes adolescents que chez les adultes qu'on traite.
Oui.
C'est que l'un ne va pratiquement jamais sans l'autre.
C'est ça.
Donc, les gens qu'on accueille chez nous sont des gens qui souffrent soit de problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression. Il y en a qui ont des troubles au niveau de la personnalité aussi. Mm-hmm. Mais je vous dirais que les dernières années, surtout avec la pandémie, pandémie, ce qu'on observe, c'est nos jeunes qu'on a vus avant la pandémie, oui, qu'on voit pendant et maintenant presque post-pandémie, mm-hmm, nos jeunes, au niveau de la santé mentale, ils semblent avoir été fragilisés par la pandémie. Et oui, c'est pour ça que nous, on offre une présence beaucoup plus soutenue maintenant dans les écoles, parce mm-hmm, qu'on se rend bien compte qu'ils ont besoin d'avoir du soutien et d'être accompagnés pour passer à travers tout ce qu'ils vivent. Non seulement déjà être adolescent, c'est pas facile.
Oui.
Être adolescent en situation de pandémie, ce l'est encore moins. Alors, la substance peut être bien attirante,
oui,
pour soulager des symptômes qu'on n'arrive peut-être pas à bien comprendre, comme des émotions négatives, comme des sentiments de dépression, parfois des idées noires, des gros problèmes d'anxiété. C'est ce qu'on voit fréquemment chez les adolescents.
Oui, oui, oui. Et vous, qu'est-ce qui a fait que vous êtes accroché à cette maison de votre père, vous qui avez déjà été mannequin? Et qui avait,
ah oui,
ou qui avait, vous avez étudié le jeu et la danse à New York, vous auriez dû faire carrière.
Oui,
qu'est-ce qui a
oui,
fait que depuis plus de 20 ans, vous êtes resté accroché à cette maison, la maison? Qu'est-ce qui a fait? Ou bien c'est
vous
les valeurs que votre père vous a transmises?
Oui. Écoutez, chez nous, on a vraiment grandi dans une maison où la porte était toujours ouverte pour aider,
oui,
les gens qui souffraient, et entre autres pour mon père. C'était des hommes comme lui qui avaient des problèmes d'alcool que mon père accueillait à la maison pour,
oui,
les encourager à aller chercher du traitement. Et j'ai grandi avec les télétons, Jean Lapointe, qui était une façon de ramasser des sous pour la maison Jean Lapointe. Mais
oui, oui,
j'avais pas l'idée de me retrouver là un jour. Et finalement, mon père s'est rétabli, mais moi, quand j'étais adolescente, ma mère est tombée aussi dans des problèmes d'alcool. Ma mère en est décédée. D'ailleurs, aujourd'hui, ma mère aurait eu 80. C'est la fête aujourd'hui.
Et vous vous êtes, vous êtes occupée d'elle?
Je me suis occupée de ma mère. Elle est décédée à 49 ans, ce qui est vraiment trop jeune. Et, c'est là, évidemment, que je voulais pas évidemment en faire quelque chose de ma vie privée. Ça a été quelque chose qu'il a fallu que je fasse, de m'occuper de ma mère. Mais plus tard, quand j'ai réalisé qu'on pouvait étudier dans ce domaine-là, je suis revenue à Montréal, je suis retournée sur les bancs d'école et je me suis dit, oui, moi, ma vie n'a pas de sens si j'aide pas quelqu'un. Donc, devenir comédienne,
mannequin,
peu importe, c'était pas assez. Donc, j'ai suivi les traces de mon père, mais autrement, au lieu de devenir comédienne, j'ai décidé de rentrer à la maison Jean Lapointe comme intervenante. Hein. Ceci dit, je suis directrice depuis 3 ans.
Oui, ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans. Vous êtes là depuis plus de 20 ans d'ailleurs.
Oui.
Oui, vous connaissez la maison, c'est comme le fond de vos poches, quoi.
C'est ma deuxième maison.
C'est votre deuxième maison, oui, comme si on peut le dire. Non, mais vous ne voyez pas mon visage, on est à la radio, il n'y a pas de caméra. Je suis très touché par cette décision prise. Les gens souffrent et puis ma vie ne vaut rien à côté de ça, d'être mannequin ou bien danseuse ou bien... Wow!
C'est quelque chose que j'aime faire dans mes temps libres aujourd'hui. Donc, dans mes temps libres, je vais danser, je vais parfois avoir des contrats de mannequin, tout ça, mais c'est vraiment pour le plaisir, parce que pour moi... Et on est tous comme ça chez nous, donc... Pour moi, je me couche le soir en me disant, ben aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un, que je suis pas intervenante comme avant, mais je le sais que la mission de la maison et tout ce que je fais pour la maison fait en sorte qu'on vient en aide à des gens. Donc, oui, vraiment.
Wow. Et depuis 2008, la Fondation, la maison, la Fondation Jean Lapointe propose aux adolescents québécois un outil novateur de prévention des toxicomanies par l'entremise des écoles secondaires et des commissions scolaires du Québec.
Oui. Voilà.
Comment ça se passe?
Oui, bien écoutez, puis vous savez, mon père le disait souvent, mon rêve c'est de fermer la maison Jean Lapointe. Mon rêve c'est de faire en sorte qu'il n'y aura plus personne à traiter parce que tout le monde va être guéri. On le sait que c'est utopique, mais en même temps, un de ses rêves, c'était de faire de la prévention dans les écoles aussi, de dire, OK, on guérit, mais est-ce qu'il y a moyen de prévenir pour que les gens ne se rendent pas jusqu'en traitement? Et évidemment, il y a eu des opportunités pour la maison de se lancer en prévention, et on l'a fait. Et grâce à cette décision-là qui a été prise, évidemment, par mon prédécesseur, M. Rodrigue Paré, qui a été directeur général pendant 30 ans, il y a eu justement... il a saisi des opportunités et depuis, on rencontre des dizaines de milliers de jeunes à chaque année de 12 à 17 ans. Et cette année, on en aura vu peut-être 80 000. Et ça fait que près d'un million de jeunes ont pu bénéficier de nos activités de prévention depuis. On n'est pas les seuls à faire de la prévention, mais on le sait que c'est quelque chose qu'il faut faire. Oui. Donc, il faut investir dans la jeunesse. On le sait que c'est important de protéger nos jeunes et de bien les informer au niveau des risques liés à la consommation, que ce soit l'alcool, nos substances,
d'autres substances, oui.
L'argent,
oui.
Les technologies, l'hyperconnectivité.
On va parler de tout ça. Et puis, bon, ben, quand je vois les statistiques, je vous dis bravo, vous et à toute l'équipe, aux bénévoles qui sont derrière vous, qui sont avec vous. Depuis 2008, plus de 4 millions de dollars investis, plus de 550 000 jeunes rencontrés, baisse de 16,5% de jeunes avant ayant un problème de consommation.
Ouais.
Et 52% des ados croient que la consommation de l'alcool amène à une personne à se faire accepter dans son groupe.
Oui.
Fait partie de la clique, comme on dit. Et un enfant de 13 ans a déjà bu de l'alcool.
Oui.
Mais quand je vois tout ça, je dis, mais dans quelle société de vie? J'ai l'impression que je ne connais pas tout. Et je dis, mais vous faites un travail incroyable.
Oui,
avec la prévention, voilà, on n'est pas là pour voilà, la prévention et la guérison aussi, parce que si les gens ne veulent pas se faire aider, vous ne pouvez pas les forcer non plus.
Non, absolument, mais vous voyez, quand on rencontre les jeunes et qu'ils nous disent, on leur demande de lever la main, ceux qui sont en première secondaire, là, ils ont 12, 13 ans, puis on leur dit qui a déjà consommé de l'alcool, puis on voit des mains levées,
oui.
On leur demande, mais à quelle occasion? Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est les parents qui leur ont donné accès à l'alcool, soit pour fêter à Noël, le jour de l'an, peu importe, c'est souvent la maison, ou des parents qui se disent « je veux pas qu'ils boivent ailleurs, je veux qu'ils apprennent à boire avec nous
oui. »,
toujours dans des bonnes intentions, mais finalement, malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut éduquer nos jeunes par rapport à l'alcool.
Non.
Et c'est pour ça aussi que au-delà de rencontrer le jeune, on rencontre les parents, on rencontre les enseignants, tous les adultes significatifs font partie de nos actions de prévention pour tout le monde, on aille dans la même direction pour encadrer le jeune de la meilleure façon possible.
OK, on va faire une petite pause musicale encore avec une autre pièce de Jean Lapointe. Je ne sais pas si, je sais pas, j'ai entendu une voix de jeune fille, je me suis dit, mais est-ce que c'est...
Alors, ça doit être moi.
Chante-la ta chanson, c'est vrai?
Oui, voilà.
Ah. Oui. Allez, Jean Lapointe, chante-la ta chanson.
Chante-la ta chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson. L'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson. Mais papa, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-le qu'elle est belle de ta vie.
Tous les ruisseaux font des fugues au soleil. Toutes les fleurs des romances aux abeilles. Même la pluie joue une symphonie. Song.
entendre sa voix. Même le ciel gris fait chanter ses orages. Il y a un soleil derrière chaque nuage. Chante, chante,
chante-la ta chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson. L'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson. N'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie.
Jean Lapointe, chante-la ta chanson. Avec la petite voix en arrière là-bas, c'est la voix de mon invité, Anne-Elisabeth Lapointe, directrice générale de la maison Jean Lapointe. Bravo!
Voilà. Merci, merci.
J'ai découvert une autre facette de vous, hein, la chanson. Oui. Bon, la mission, les valeurs, l'histoire, la mission... Cet organisme, Jean Lapointe, qui c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes par le traitement, la prévention, le soutien, le partage des connaissances en matière de substances et de dépendance. L'alcool, je ne sais pas pourquoi ce phénomène d'alcool d'ailleurs dans notre société est devenu... Si d'ailleurs, moi j'étais surpris, je voulais vous le dire, Anne-Elisabeth, au moment de la pandémie, quand les magasins... De la SACU n'avait pas fermé, je me demande pourquoi est-ce que c'est considéré comme service essentiel.
Ouais, en fait, je pense qu'on est plusieurs à s'être posé la question. Je crois que bon, il y a évidemment l'aspect probablement politique derrière
oui.
Et c'est la source de revenus évidemment parce que c'est une société d'État, donc évidemment c'était une façon de continuer à faire des sous, mais je crois que l'argument, c'était de se dire les Québécois vont avoir besoin de boire un peu peut-être pour décompresser par rapport à tout ce stress que la pandémie amenait. Mais
oui.
Je crois que, écoutez, puis je c'est mon opinion, mais je crois que d'un point de vue de santé publique, c'était peut-être pas la meilleure
décision. En tout cas.
Non, parce que quand je regarde aujourd'hui, nous, les demandes qu'on a à la maison Jean Lapointe reliées à l'alcool et qu'on demande, qu'on les évalue et qu'on s'aperçoit qu'ils avaient augmenté de façon significative la consommation pendant la pandémie ou des gens qui étaient abstinents qui ont rechuté pendant la pandémie. Mm-hmm. Et je parle juste au niveau de l'alcool. C'est là que tu te dis, bon, OK, ils s'en seraient peut-être procurés autrement de toute façon.
Oui.
Ça n'a pas aidé.
Mm-hmm. Mais comment les gens deviennent accro des jeux d'argent. Comment on peut devenir accro de jeux d'argent?
Et ça, c'est l'autre problème, parce que vous le savez, pendant la pandémie aussi, le jeu en ligne a explosé. Et aujourd'hui, voilà, le portrait qu'on en a, c'est que nous, à la maison Jean Lapointe, on fait face à une clientèle qui n'a rien à voir avec la clientèle pré-pandémique. Alors avant, les gens qui avaient des problèmes de jeu, c'était lié aux appareils de loterie vidéo ou avec les machines à sous.
Oui.
Maintenant, c'est le jeu en ligne.
Oui.
Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2022, c'est facile d'accéder au jeu. Avant, il fallait sortir de chez soi, se rendre...
Non, mais non, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de sortir de chez soi.
Exactement. Mmh. Alors, à la portée de notre main, on a du jeu que sur notre téléphone cellulaire, sur notre tablette, sur un ordinateur, et on a accès 24 heures sur 24.
Oui.
Donc, ça nous met à risque. La grande accessibilité nous met à risque. Ensuite, les jeux sont conçus, évidemment, pour faire en sorte qu'on n'a pas envie de laisser le jeu, qu'on a l'impression qu'on est proche de gagner.
Mm-hmm.
Alors, on met de l'argent, on met un peu plus d'argent, de plus en plus d'argent. Et comme c'est virtuel maintenant, surtout, on perd la notion de l'argent.
Oui.
Et on est à l'abri des regards. On peut jouer tranquille chez nous, on peut être sur notre cellulaire, dans l'autobus, personne ne sait qu'on est en train de jouer. Donc, on devient rapidement, justement, dépendant. C'est réellement une dépendance comme une autre où on commence tranquillement, on a envie de rejouer, on va jouer de plus en plus longtemps, de plus en plus souvent, des montants d'argent de plus en plus importants,
oui.
Et on va finir par devenir dépendant. Ça se fait de façon très, très, très insidieuse. On n'ingère rien, on ne prend pas de substance.
C'est ça.
Donc, les gens, quand ils réalisent qu'ils ont un problème de jeu, bien souvent, les problèmes d'argent sont très significatifs.
Oui. Il nous reste quelques minutes, on va terminer avec l'IPEC en activité. Comment vous arrivez à faire prendre conscience aux jeunes gens que vous recevez, qui sont hyper connectés, pour leur dire, ouais, prenez soin de vous, oubliez un peu ça, fermez vos ordinateurs, vos iPods, vos iPads, vos... Moi, je les appelle les bidoules, ces gadgets-là.
Ouais. Ouais, écoutez, c'est fascinant parce que nous, à la maison Jean-Lapointe, bien qu'on on ne traite pas les gens qui ont des problèmes de cyberdépendance comme tels, mais
oui.
Tous les gens qui viennent pour des problèmes de jeu, évidemment, c'est le jeu en ligne pour peut-être 90% d'entre eux. C'est sûr qu'on le voit, là. Ça leur manque énormément. Écoutez, il y en a qui cachent dans leur valise un deuxième, un troisième cellulaire, là, donc
c'est
pour
vrai.
Pouvoir continuer à accéder à la technologie, même en traitement. Et donc, c'est sûr qu'on le voit, qu'il y a un manque, on voit qu'il y a un réel sevrage. De toute façon, on peut le faire soi-même, essayer même une journée de se passer de nos bidules, comme vous dites,
c'est très
difficile. On n'est pas bien. Je me rends au travail, puis je m'aperçois que j'ai laissé mon cellulaire à la maison.
Oui.
Pas agréable comme sensation. Et donc, c'est pour ça aussi que quand on rencontre nos jeunes, on parle de tout ça avec eux. Parce qu'eux sont nés avec la technologie dans les mains, mais c'est de leur faire prendre conscience que oui, il y a beaucoup de bienfaits à l'Internet et à la technologie, mais il y a aussi des méfaits. Il faut en prendre conscience parce qu'encore une fois, tout ce qui est dépression, anxiété, oui, parfois on va aller vers la technologie puis des jeux en ligne ou les jeux vidéo pour soulager des émotions négatives. Mais c'est qu'en revanche, plus on passe de temps sur les technologies, plus on est à risque de devenir dépressif et anxieux.
Oh oui. Et comment les gens peuvent vous joindre rapidement pour terminer?
On est sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram.
Oui.
On peut nous téléphoner à la maison Jean-Lapointe, 514-288-2611. Je le dis souvent parce que c'est un 2611 d'alcool, donc 2611.
Oui.
Le jeu de mots, on s'en rappelle, donc 288-2611. Et sinon, on nous écrit en ligne sur le site maisonjeanlapointe.org. Il y a des adresses courriels, on peut nous écrire directement. On peut nous envoyer des messages sur Facebook. On répond évidemment très, très, très rapidement. Pour ceux qui ont besoin d'aide, on essaye de les prendre en charge le plus rapidement possible également.
Merci beaucoup, Anne-Elisabeth Lapointe, directrice générale de la maison Jean Lapointe. Merci, vous, à toute l'équipe, aux bénévoles, tous ceux qui étaient là, qui ne sont plus là. Je vous dis du fond du cœur, merci beaucoup. Et au plaisir de vous réentendre. On va aller, on pouvait parler de 2h, 3h du temps, mais je n'ai qu'une heure d'émission.
Merci à vous d'avoir pensé à m'inviter. Là, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir pu vous parler.
Et bon 40e.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir. Oui.
Might be weariness or another white dream, lost on the roadside near Soledad, searching for the ocean through the dust in my eyes. A lonely silver car appears, wild, thirsty horse, restless at the water's side.
Merci à toi, Nicolas. On se retrouve demain à la même heure dans le studio Canal M. Et merci à mon invité, Anne-Elisabeth Lapointe, directrice générale de la maison Jean Lapointe. C'est le 40e anniversaire de la maison. Des bravo à elle et puis à son papa aussi, qui est encore vivant. Et puis à toute l'équipe, à tous les bénévoles qui travaillent là-bas. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité à cette émission. Et je vous le répète tous les jours maintenant, toutes les émissions de Canal M sont sur toutes les plateformes numériques. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout. Et aussi sur le site web ceux qui ont des télévisions. Ouais, Vidéotron, c'est le 577. Nicolas, je te regarde. Je te laisserai pas me couper. Merci à toi encore une fois. On se voit demain. Et sur ce, je vous dis ciao.